Bonjour tout le monde, vous êtes en forme? On a une belle gang ce matin, je pense qu'il y a des gens qui sont venus aussi pour les baptêmes, c'est vraiment, vraiment le fun. Alors ce matin, on tombe dans vraiment le chapitre pour une matinée de baptême. On continue notre série « L'Église, l'expression de l'Évangile », on est dans Éphésiens. La semaine dernière, on a couvert Éphésiens 1, cette semaine Éphésiens 2, la semaine prochaine Éphésiens 3. C'est pas dur à suivre comme plan de lecture. Vous pouvez lire le passage à répétition, en préparation. La semaine dernière, on a vu ensemble les trois bénédictions, résumer les trois bénédictions qu'on a reçues si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Premièrement, on a été choisis par le Père pour être adoptés, choisis pour l'adoption par le Père. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a été rachetés pour l'unité, par le Fils, par le sacrifice du Fils. Et troisièmement, on a été marqué. On a été marqué comme au fer, tatoué dans l'âme, par l'Esprit Saint, pour l'héritage qui nous est promis. Et déjà, on a l'Esprit en nous qui nous habite. Et ce matin, on se tourne vers le chapitre 2. Puis, dans le chapitre 2, Paul va résumer notre état à chacun d'entre nous avant de connaître Christ. Puis ensuite de ça, il va nous dire qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on est en Jésus-Christ, d'accord? Si vous voulez placer l'importance de ce chapitre-là, le chapitre 2 dans la Bible, j'oserais vous dire que c'est un des chapitres les plus importants de toute la Bible pour comprendre le message central des Écritures, l'Évangile de Jésus-Christ. Si vous aviez deux chapitres à mémoriser dans votre vie, deux chapitres complets à mémoriser dans votre vie, ma recommandation, ce serait Romains 6, et Éphésiens 2. Alors, si jamais il y en a des braves qui relèvent ce défi-là, vous mémorisez ces deux chapitres-là, je vous fais venir en avant, je le récite avec vous par cœur, d'accord? Celle que vous voudrez. Je prendrai la mienne. Mémorisez-la comme vous voulez. Éphésiens 2 puis Romains 6. Si vous avez deux chapitres à mémoriser, c'est vraiment les deux chapitres les plus importants pour comprendre à la fois qu'est-ce que c'est l'Évangile et qu'est-ce que l'Évangile vient produire en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. On va prier ensemble. Père éternel, ce matin, on vient t'adorer, Seigneur. Ce matin, on vient célébrer ta gloire et ton nom. Parce qu'à travers ce passage dans Éphésiens, nous allons voir, Seigneur, notre condition sans toi. Et nous allons voir, Seigneur, la majesté, la beauté de ton amour, Seigneur, de ta grâce que tu as manifesté, que tu as accompli, réalisé en Jésus, en notre faveur, Seigneur. Ma prière, Père, est toute simple ce matin, puis en même temps, c'est peut-être la prière la plus importante pour un chrétien. Seigneur, je te prie de venir illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous puissions saisir davantage la grandeur, la beauté, la richesse, la profondeur, Seigneur, de l'amour que tu as déployé envers nous, en Jésus-Christ. Merci pour ces deux jeunes hommes qui vont se faire baptiser. Merci pour leur témoignage, Seigneur. Leur témoignage au-delà des mots qu'on va entendre, leur témoignage de vie. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et tu sauves encore aujourd'hui. Bénis-nous dans ta parole ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu par Jérémie.
Le passage biblique de ce matin est tiré d'Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 22, dans la nouvelle édition de Genève. Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 22, dans l'édition de Genève. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
Merci, Jérémie. OK, je pense que vous savez à ce point-ci que je ne suis pas un grand amateur de sport professionnel. Je me convertis au sport professionnel quand on se rend quelque part avec les équipes, tout ça, ou lorsque le Super Bowl. Mais j'ai une illustration pour vous. Puis, je suis désolé, c'est juste les vrais fans, les fans finis de sport professionnel qui vont pouvoir l'apprécier réellement, d'accord? Alors, si vous avez une équipe, vous avez votre équipe, puis vous êtes des fans, puis ça brûle en dedans. Tu sais, je parlais avec quelqu'un pendant que le Canadien avait pas commencé à jouer au golf, puis il me disait, c'est incroyable, la personne travaille à Montréal. Il a dit, quand le Canadien gagne, Montréal est heureux. Tu parles avec les gens, tu arrives au travail, les gens sont de bonne humeur. Quand le Canadien perd, c'est comme tout est morose. C'est incroyable, ça affecte l'humeur, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans tes tripes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans tes émotions, lorsque ton équipe réussit à placer un but, à gagner le match? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, encore mieux que ça, lorsque ton équipe accède aux séries, puis progresse dans les séries? Ou encore, s'il fallait que l'équipe gagne la coupe, puis que le capitaine de l'équipe vienne faire le point vainqueur. C'est le bonheur total. Ça change tout. Ça change tout dans ta journée. Ça change tout dans ton humeur. Maintenant, pour de vrai, là, t'es probablement encore assis dans ton salon, non? Puis dans ta vie à toi, il n'y a rien qui s'est passé. Ce que Paul est en train de nous raconter ici, là, écoutez-moi bien, les amateurs de sport professionnel. Ce que Paul est en train de nous raconter ici, dans Éphésiens 2, c'est que notre équipe a gagné. Puis le capitaine de notre équipe a marqué le point vainqueur. Amen? Et c'est ça qu'on va voir. La grâce, c'est ça. Notre équipe a gagné, le capitaine a marqué le point vainqueur. J'ai pas rien fait encore, mais je suis gagnant déjà. Parce que mon équipe a gagné. Parce que mon capitaine est allé jusqu'au bout puis il l'a remporté pour nous. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est assez dense comme passage. Alors, je veux juste vous résumer, vous mentionner les trois points, comment j'ai structuré l'exposé pour que vous puissiez le retenir le plus possible. On va voir ensemble que avant de connaître Jésus-Christ, nous étions morts et étrangers. Morts et étrangers. Ensuite de ça, Dieu est intervenu. Mais Dieu par Christ. Les deux mots les plus importants du chapitre 2, c'est « mais Dieu ». D'accord? C'est les deux mots les plus importants. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Qu'est-ce qu'il a produit en nous? Ressuscité, créer, réconcilier. Ressusciter, créer, réconcilier. Ce matin, on va voir ensemble que nous tous, nous étions prisonniers de notre rébellion contre Dieu, morts et étrangers. C'était notre état à tous. Peut-être que tu n'es pas d'accord, suis-moi, décroche pas tout de suite, reste avec moi un peu. On va parler de cette mort-là, d'accord? Nous étions morts et étrangers, mais Dieu nous a ressuscités, créés et réconciliés pour la vie. Mort et étranger. Dans Éphésiens 2, les versets 1 à 3, voici ce que Jérémie nous a lu tout à l'heure. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » L'apôtre Paul commence en disant que notre état, lorsqu'on n'est pas en Jésus-Christ, lorsqu'on n'a pas la foi en Jésus-Christ, c'est un état de mort spirituelle. Puis il dit, on est mort à Dieu. En nous, il n'y a pas de vie divine, de connaissance réelle, de disposition favorable à l'égard de Dieu. Puis pendant que j'étais en train d'étudier le passage, je me disais, comment ça sonne dans l'esprit d'un Québécois, cette idée-là? Parce que moi, je pense que quand je jase avec des amis qui sont pas chrétiens, puis si je vais leur voir puis je leur dis, toi, t'es mort spirituellement, je pense que je les offense puis ils comprennent pas du tout de quoi je parle. Je veux dire, la majorité des Québécois, je sais pas pour vos amis, mais moi, les gens avec qui je parle, si on a une belle conversation, ces gens-là estiment être des personnes spirituelles. La majorité d'entre eux ont une forme quelconque de spiritualité, puis si je leur dis qu'ils sont morts spirituellement, ils vont dire, non, j'ai des croyances, je crois des choses, c'est pas... C'est qui, toi, pour me dire que j'ai pas de spiritualité? J'ai une spiritualité. Je crois en un Dieu. Puis de quoi Paul est-il en train de parler ici? C'est vraiment important de le saisir. Paul est en train de dire qu'avant d'être en Jésus-Christ, dans notre être intérieur, dans nos désirs et dans nos capacités, il n'y a pas en nous de ressources suffisantes pour marcher dans les voies de Dieu. C'est pas là. Paul est en train de dire qu'avant d'être en Jésus-Christ, par moi-même, dans ma nature propre, juste Yannick par lui-même, sans l'intervention divine de Jésus-Christ, il n'y a pas en moi les désirs et la capacité, la disposition et le potentiel pour marcher vraiment dans les voies de Dieu. Et peut-être que ça, c'est une offense pour toi, tu dis, oublie ça, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais je vais t'offrir la possibilité de vérifier ça, d'accord? On va être super concret, super pratique. Je vais te proposer un exercice empirique, un test que tu peux faire chez toi, à la maison, en toute sécurité. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle le Décalogue, les 10 commandements. Si tu n'es pas familier avec les 10 commandements, va sur le web, Google, j'ai pris le temps d'aller vérifier ce qui va sortir rapidement, Wiki, tu vas avoir deux belles tables de la loi en pierre qui sont des représentations des 10 commandements que Dieu avait donnés au peuple d'Israël. Tu peux aussi demander à un ami, il va te montrer où est-ce que c'est dans les Écritures. On l'a au moins à deux reprises clairement. Et donc, qu'est-ce que c'était ces 10 commandements-là? C'était, en fin de compte, les 10 choses à faire qui ont plein d'implications, mais en gros résumé, si tu veux marcher dans les voies de Dieu. Fait que je me moque pas de personne ce matin, d'accord? Parce que si effectivement on est mort spirituellement sans connaître Jésus-Christ, je veux dire, tu veux le savoir. C'est important. C'est de la plus haute importance. Tu as un cancer, tu meurs dans 2 mois, il y a une possibilité de te sauver avec une intervention, tu veux le savoir, d'accord? Tu veux le savoir. Donc voici le test que je te propose de faire. Trouve les 10 commandements. Prends le temps de les lire, de comprendre en gros de quoi ça parle. Et applique-toi pendant 7 jours à les respecter parfaitement les 10 commandements. Si tu es sérieux, tu vas comprendre de quoi on parle. Tu vas réaliser que même si tu pars avec une bonne disposition, même si tu dis oui, je suis capable, je suis quelqu'un de spirituel, je peux faire vraiment juste comme le bien pendant 7 jours, si tu es sérieux, tu vas réaliser que c'est impossible. Et il n'y a personne ici qui prétend qu'il est capable de faire ça, soit dit en passant. C'est pas non plus ceux qui sont en Jésus-Christ qui disent « Ah, moi je me lève, je suis capable, pas de problème. » Dis ce commandement, amen, je mange ça au déjeuner, moi. Je révise ça avant de prendre mes clés de char, puis je me dis « On fait tout ça aujourd'hui. » Le soir, je fais tous mes checks, tout est beau. Depuis que je suis chrétien, fouf, ils m'ont plongé, je suis sorti, boum. 10 commandements, mon nouveau standard. Il n'y a personne ici qui est comme ça. Il n'y en a pas un, d'accord? Mais si vraiment tu dis, non, moi je suis pas mort spirituellement, je suis désolé Yannick, je suis une personne spirituelle, c'est offensant ce que tu es en train de me dire, c'est peut-être parce qu'on ne parle pas de la même catégorie. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas des aspirations spirituelles. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que bibliquement, en toi-même, tu n'as pas les ressources pour désirer et le potentiel pour obéir aux voies de Dieu. Puis tu peux faire le test cette semaine. Tu vas voir, c'est concluant 100 fois sur 100. Bon, après ça, peut-être qu'il y a un problème d'orgueil, là, mais c'est un autre sujet. D'accord? Mais c'est vraiment évident. Et donc, c'est de ça que Paul est en train de parler. Paul est en train de parler de ce manque de disposition à faire le bien, à marcher dans les voies de Dieu, puis cette incapacité à le faire. C'est de ça dont il est en train de parler. Puis, par exemple, David va dire ceci comme ça dans les psaumes, il va le résumer comme ça, il dit « Je garde à l'esprit la formule qui exprime la révolte du méchant. » David regarde les gens, il regarde les gens qui ne connaissent pas Dieu, puis il dit « Voici comment ces gens-là s'expriment. À son avis, avoir peur de Dieu n'a pas de sens. Ces gens-là vont avoir un mépris envers Dieu. C'est le genre de pensée qui sont là parce qu'ils vont être au-dessus de la personne de Dieu. » La semaine dernière, j'ai utilisé une illustration. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'illustration de la prison. Puis j'ai dit, sans connaître Dieu, on est dans une prison. On est tenu dans une prison qui, en réalité, exprime cet état-là de mort spirituelle. Je suis prisonnier de toutes sortes de choses qui font que je n'arrive pas à marcher dans les voies de Dieu. Je vais continuer sur cette illustration-là. Je vais résumer ce que Paul présente ici comme trois gardiens de cette prison. Souvent, on va dire que les ennemis de notre âme, c'est quoi? Le monde, le diable, la chair. Vous avez déjà entendu ça? On résume le combat qu'on a livré, c'est contre une pensée du monde. Paul dit ici le train de ce monde. On va regarder ça, le diable, deuxièmement, et puis la chair qui est plus intérieure. Puis je vais le développer un peu. Mais voyez ça comme trois gardiens de cette prison qui nous tiennent enfermés dans cet état intérieur où on n'est pas capable de marcher dans les voies de Dieu. Et une fois que je deviens chrétien, ce combat-là ne disparaît pas. Je l'ai dit, on a souvent le réflexe de retourner s'asseoir dans notre prison. La porte est ouverte, Christ l'a ouverte, c'est fini. Les gardiens ont été chassés. Mais nous, entendant cette voix-là, on se retourne s'asseoir là, puis on écoute encore ces mêmes voix-là très souvent. Et donc, Paul nous présente ces trois gardiens de cette prison. Premièrement, le monde. Éphésiens 2:2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le train de ce monde. De quoi il est en train de parler ici? Il est en train de parler de tout ce qui, dans la culture, est en opposition avec la pensée de Dieu. Dans toutes les cultures dans le monde, quand je parle de culture, je ne parle pas des arts, hein, je parle de la culture en général. Ce qui va définir un peuple par son système de valeurs, par son code culturel, par l'expression de sa culture, tout ça. Dans toutes les cultures dans le monde, il y a des choses qui sont conformes avec la pensée de Dieu et il y en a d'autres qui sont diamétralement opposées à la pensée de Dieu. Je vous donne des exemples. Dans notre culture québécoise, la culture fait un grand cas de la responsabilité de la société de prendre soin des gens plus démunis. C'est une valeur forte au Québec. On dit, comme société, on est responsable des gens plus démunis. Amen. Dieu est d'accord avec ça. Dieu va plus loin que ça. Il dit, c'est pas juste une responsabilité sociale, c'est une responsabilité individuelle. Dieu t'a donné pour que tu prennes soin des gens démunis autour de toi. Donc, pas de conflit au niveau culturel à cet endroit-là. D'accord? Pas de problème. Je pense comme un Québécois. Je pense qu'il faut prendre soin des démunis. Super. Aucun problème là. C'est pas de ça dont Paul est en train de parler ici. Il parle des endroits où la culture va s'opposer à la pensée de Dieu. Donc, un exemple que je vais vous donner. Notre culture nous dit, restez avec moi, d'accord? Notre culture nous dit que c'est bien d'apprendre la sexualité sur le web, à travers des sites pornographiques. Je m'explique. La culture va dire, fais attention, parce que, tu sais, il pourrait avoir comme n'importe quoi, mais c'est correct, ça va ouvrir ton esprit, tu vas découvrir des choses, c'est correct, tu vas apprendre la sexualité sur le web. Dieu dit non, pas du tout, c'est pas ça. C'est regarder un homme ou une femme nue qui n'est pas ton époux ou ton épouse, c'est mal en soi. C'est mépriser cette personne-là que Dieu a créée. C'est porter atteinte à cette personne-là, c'est en faire un objet. La sexualité, c'est quelque chose de beau, de noble, que Dieu a donné pour le mariage. C'est te faire du mal à toi-même, parce que tu es en train de dénaturer complètement la sexualité en le définissant tout simplement comme un acte qui apporte du plaisir plutôt qu'un geste qui est l'expression même de l'amour. Donc, il y a un conflit ici. La culture est en opposition. Comment tu penses par rapport à la sexualité? Tu vas savoir si ta pensée est selon le train de ce monde ou si elle est selon la pensée de Dieu. Un exemple plus subtil. La culture nous dit que notre travail sert avant tout à la réalisation de soi. C'est sûr, pour voir à nos besoins, mais avant tout à la réalisation de soi, alors que le Seigneur nous enseigne plutôt que le travail sert à pourvoir à nos besoins puis à aider les gens dans le besoin. Le travail, dans la Bible, c'est une capacité que Dieu nous donne, un appel que Dieu nous donne pour pourvoir aux besoins des gens qui sont sous notre responsabilité puis aider les gens qui sont dans le besoin. C'est ça que les Écritures nous enseignent sur le travail. Mais la culture en général va dire non, tu vas t'accomplir, tu vas te réaliser à travers le travail. Je le souligne souvent. Après ça, la culture est en conflit intérieur lorsqu'elle va vers des gens qui ne peuvent pas se réaliser à travers le travail. Alors, il va falloir qu'ils se réalisent autrement parce que là, ils n'ont plus de valeur. Voyez-vous? Donc, c'est quoi ta pensée par rapport au travail, tes ambitions? Tu cherches qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu veux aller te réaliser? Bien, il y a une partie de ça. J'aime mon travail. J'espère que tu aimes ton travail. Tant mieux si c'est le cas. Mais sa première fonction, c'est pas de réaliser ta personne. Le chrétien sait que ça a été fait en Jésus-Christ déjà. Et donc, il y a un conflit ici. C'est la pensée du monde. Alors, lorsque je pense selon le train du monde, c'est que je n'ai pas appris à prendre les Écritures avec l'aide de l'Esprit-Saint, examiner la culture, être attentif à mes pensées, puis regarder est-ce que je suis en train de penser comme le monde. Et ce que Paul me dit, c'est qu'avant de connaître Jésus-Christ, ce discernement-là, tu ne l'as pas. Avant de connaître Jésus-Christ, tu peux avoir du discernement, tu vas avoir des choses qui sont bonnes, pas bonnes dans le monde. Mais ton critère de discernement, c'est pas la pensée de Dieu, c'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que tu es en train de le faire. Deuxième adversaire, le diable. Éphésiens 2:2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On a parlé la semaine dernière de cette expression-là qui revient à plusieurs reprises dans Éphésiens, dans les lieux célestes. Puis on a défini cet endroit-là comme une dimension qui n'est pas dans le futur, qui n'est pas dans le passé, qui n'est pas nécessairement juste dans le ciel, qui peut être ici, mais comme une dimension où vit Dieu, où vivent les anges, où vivent même les êtres maléfiques qui s'opposent à Dieu, dont le diable. Et le diable est défini dans les Écritures comme un être vivant, un esprit qui a décidé de s'opposer à Dieu. Il va être défini comme un menteur, un tentateur dans le Jardin d'Éden. Il est là, puis il vient déformer la parole de Dieu pour suggérer une autre pensée que la pensée de Dieu. Et ce que Paul nous dit, c'est que c'est lui qui est le chef d'orchestre de cette vision qu'il y a dans le monde qui s'oppose directement à Dieu. Et tu sais que tu es confronté à ça lorsque quelque chose que déclarent les Écritures comme étant bien, mais quand tu le confrontes à la culture, ça sonne tellement weird, tellement bizarre. Et tu sais que c'est la pensée du diable qui est là. D'accord? Et ça, c'est notre deuxième adversaire. Et sans Christ, on n'est pas capable de le vaincre. On n'est pas capable de le vaincre. En fait, les Écritures nous parlent d'un être extrêmement puissant. Le troisième adversaire, c'est la chair, Éphésiens 2:3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, Paul n'est pas en train de parler essentiellement du corps physique lorsqu'il parle de la chair. C'est important de comprendre ce concept-là parce que ça revient quand même beaucoup dans les écrits de Paul. De quoi il est en train de parler? Il parle de désirs charnels qui sont aussi du domaine de la volonté puis de la pensée. Donc, il y a des désirs qui sont là, des pulsions qui sont là, qui vont dans le domaine justement de la volonté. Il y a comme une pulsion et de la pensée aussi. Et une des choses importantes que je comprends lorsque je lis ça puis j'étudie ça, c'est que je ne peux pas blâmer l'univers pour mes péchés. Le monde m'influence, le diable peut m'influencer, mais Paul me dit « par nature ». Tu serais seul sur une île déserte, sans la société pour te corrompre, sans le diable pour te tenter, puis il y en aurait déjà assez pour faire bien du mal. Parce que c'est là en nous, c'est dans notre nature, ça coule dans nos veines. Et donc, lorsqu'on parle des convoitises, lorsqu'on parle des désirs, lorsqu'on parle de la luxure, il y a toutes sortes d'expressions de cela. Nous étions morts et étrangers. L'implication de ça, c'est que nous sommes étrangers à Dieu. Même si j'ai des aspirations puis que je parle à Dieu des fois, tout ça, Dieu, par définition, est saint et moi, je suis dans cet état-là de mort spirituelle. Et donc, il y a un mur de séparation entre Dieu et moi énorme. Je suis étranger à Dieu. Je suis étranger aux choses de Dieu. Je peux avancer à tâtons puis essayer, mais je suis étranger aux choses de Dieu, loin de la personne de Dieu. Éphésiens 2, 11 et 12, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qu'ils sont dans la chair, les Juifs étaient circoncis, c'était un signe. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout ce passage-là, je n'aurai pas le temps ce matin, mais j'étais étranger à la personne de Dieu. Quand tu regardes ta vie avant de connaître Jésus-Christ, comment est-ce que le monde, le diable puis la chair s'exprimaient dans ta vie? Quand tu penses à ta vie avant de connaître Jésus-Christ, comment est-ce que le train de ce monde, la pensée du monde était présente? Comment est-ce que le diable œuvrait dans ta vie? Et comment est-ce que ta chair opérait? Ses désirs, ses convoitises, ses volontés-là. Et puis, on arrive aux deux mots les plus beaux puis les plus importants de toute la lettre aux Éphésiens. Mais Dieu. C'est ça que Paul essaie de nous communiquer ici. Puis si vous comprenez le sens de ces deux mots-là ce matin, vous avez la clé pour comprendre l'Évangile et ne pas dénaturer l'Évangile en avançant dans votre vie chrétienne. Mais Dieu. Parce qu'on était morts. On était morts spirituellement. Il y a juste dans les films de zombies que les morts se lèvent, d'accord? Il y a juste dans les films de zombies qui se lèvent, ils ont faim puis ils avancent. C'est juste bon pour le fantastique, ces affaires-là. Un mort, ça bouge plus. Et ça prend une intervention extérieure qui vient puis boum, qui vient donner la vie. Mais Dieu, Éphésiens 2, 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais Dieu, sa miséricorde, verset 4, son amour, verset 4, sa grâce, 5, 7, 8, sa bonté, verset 7. J'ai besoin de comprendre mon état sans Christ pour comprendre l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul commence avec cette mauvaise nouvelle qu'on est mort et qu'on est étranger. Le christianisme n'est jamais une religion ou un cheminement spirituel où on apprend à devenir meilleur. On apprend des routines spirituelles pour devenir une meilleure personne. Le christianisme, ce n'est pas un processus par lequel tu deviens meilleur. Tu deviens une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne parce qu'il y a une résurrection qui va être opérée en toi par la grâce de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui est l'agent de changement. On parle d'une résurrection, un mort qui ressuscite. Et tout ça va s'opérer uniquement par sa grâce. C'est important de comprendre que Dieu ne me devait pas de me faire grâce. C'est difficile pour un occidental, dans la pensée occidentale, de réaliser que Dieu ne me devait rien. Puis, si vous me permettez, je vais vous donner une illustration pas mal crue ce matin. Est-ce que vous me permettez d'être un peu direct avec vous? Est-ce que le diable, ou plutôt, qu'est-ce que le diable mérite de la part de Dieu? Qu'est-ce que le diable mérite de la part de Dieu? Si le diable est comme la Bible le décrit, qu'est-ce qu'il mérite de la part de Dieu? D'être jugé, d'être condamné? Paul me dit que nous étions tous des fils et des filles de la rébellion, qui marchions selon le prince de la puissance de l'air, celui qui agit dans les fils de la rébellion. Si le diable mérite le jugement de Dieu, qu'est-ce que je mérite, moi, sans Jésus-Christ? Comprenez, c'est dur pour un occidental d'arriver puis de dire, « Oui, mais attends un peu, je ne suis pas si pire que ça. » Et cette pensée-là pourrait te priver maintenant et pour l'éternité d'entrer dans la présence de Dieu. « Non, mais je ne suis pas si pire que le diable. Je ne mérite pas ce que le diable mérite. » Et cette pensée-là, si tu t'attaches à cette pensée-là, ça pourrait te priver de saisir l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous dit qu'il est venu nous sauver par grâce. Et cette grâce-là, c'est donc une faveur imméritée. Parce que ce que moi je méritais, et ce que toi tu méritais, et si tu n'es pas en Jésus-Christ, ce que tu mérites, c'est ce que le diable mérite. Je sais que tu n'aimes pas ça être comparé au diable. Mais tu peux faire le test cette semaine, j'ai dit, de manière empirique, prends les 10 commandements, puis regarde si ta pensée, c'est la pensée de Dieu, si tes œuvres, c'est les œuvres de Dieu, ou celles du prince de la puissance de l'air. Et donc, ce que Paul va dire dans Éphésiens 2, 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est son œuvre à lui. Ce n'est pas nos œuvres à nous. J'ai besoin de comprendre ça pour devenir chrétien, puis j'ai besoin de comprendre ça pour grandir comme chrétien. Lorsque Paul écrit dans deux versets, un tout petit peu plus tôt au verset 5 puis au verset 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés », c'est la bonne manière de le rendre en français parce que le mot grec qui est utilisé là est utilisé au temps parfait. Et donc, c'est une réalité continue. C'est comme si Paul était en train de dire « Avant de connaître Christ, quand vous l'avez connu, vous avez été sauvés par la grâce. Maintenant que vous connaissez Jésus-Christ, aujourd'hui, vous êtes sauvés par la grâce. Et plus tard, quand vous allez mourir, vous allez entrer dans la gloire par la grâce. Jamais, jamais, vous allez être, vous êtes et vous serez sauvés autrement que par la grâce. Jamais vous avez été sauvés dans le passé par vos œuvres. Jamais maintenant vous pouvez performer d'une manière quelconque qui vous sauve et jamais vous allez pouvoir performer pour accéder à la gloire. Parce que c'est son œuvre à lui. Lorsque l'apôtre Paul prie dans Éphésiens 1, puis prie dans Éphésiens 3, puis sa seule prière, c'est « Je prie afin que Dieu, par son Esprit, permette que vous réalisiez qu'est-ce que c'est l'Évangile. » C'est de ça dont il est en train de parler. J'ai été sauvé par la grâce, par aucune de mes œuvres. Il a fallu que j'accepte que j'étais mort spirituellement. Avant ça, je ne pouvais pas recevoir l'Évangile. J'en avais pas vraiment besoin de la grâce. J'étais encore en train d'essayer de performer. Mais je marche aujourd'hui à tous les jours en m'appuyant sur sa grâce. Je sais lorsque le soir je me couche, je sais que je ne pourrai pas présenter un checklist parfait. Je m'en remets à sa grâce. Et lorsque je vais être à la veille d'être promu dans la gloire, lorsque je vais être à la veille de quitter cette terre, je ne vais pas regarder ma vie derrière et dire « Seigneur, tu as fait une bonne job avec moi. » Puis je pense que je suis prêt à rentrer au ciel. Tu m'as suffisamment transformé. Oh non, je vais regarder en arrière puis je vais dire, tout ça, c'est l'opération de ta grâce. Et si aujourd'hui, je vois ta face en ouvrant les yeux après les avoir fermés une dernière fois, ça va être à cause de ta grâce, Seigneur. Amen. Ça va être à cause de ta grâce. À cause de ta grâce uniquement. Parce que c'est ça qui va glorifier Dieu. C'est ça qui va être à la gloire de Dieu. Et Paul nous dit donc, « Mais Dieu par Christ. » Tout ça a été fait en Jésus-Christ par le fait qu'on se retrouve dans la personne de Christ uniquement. Éphésiens 2, 5 et 6. « Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Je n'ai pas vraiment le temps de développer ça, mais ce terme-là, lorsqu'il dit qu'on est son ouvrage, le mot qui est là, c'est « poéima ». D'accord? Le mot « poème » en français vient de ce mot-là. L'ouvrage, dans ce cas-là, ça représente une création, une réalisation, souvent une œuvre artistique ou une œuvre qui était utilisée dans le contexte religieux ou spirituel. C'est quelque chose que quelqu'un allait créer. Et Paul est en train de dire ici, par Jésus-Christ, tu deviens son ouvrage, tu deviens sa création, tu deviens son poème, littéralement. C'est pas moi. C'est pas que tout d'un coup, Dieu dit, hey, j'ai mis un jersey parce que c'est ma superstar, puis je veux qu'il porte la poque pour moi. Puis... Non, c'est lui qui l'a fait. C'est par sa grâce. J'étais mort, il m'a ressuscité. Je suis une nouvelle créature. Mais ce que Paul me dit, c'est que d'une manière surnaturelle, incroyable, qui dépasse toutes mes aspirations, puis tout ce que je peux croire en moi, je suis un poème que Dieu écrit. Si tu es en Jésus-Christ, tu es un poème que Dieu écrit. Et qu'est-ce qui va être écrit là? La gloire de Dieu. Comment est-ce que ça va se manifester? Par des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, si on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé pour des œuvres. Si j'ai été sauvé par grâce, par sa grâce, je vais le glorifier aussi, puis je vais faire ces œuvres-là. Et ces œuvres-là, cet homme nouveau, cette femme nouvelle que Dieu a créée par la puissance de l'Évangile, c'est un poème que Dieu est en train de réaliser. J'ai jamais l'opportunité de me glorifier de moi-même comme si, waouh, hey, Yannick, c'est comme, je suis une super œuvre de Dieu. C'est pas ça le point, c'est lui le maître d'œuvre. C'est lui qui est en train de sculpter. Des fois, ça fait tellement mal parce qu'il y a des gros bouts à enlever, puis, tu sais, c'est comme pas beau, puis ça éclate, puis là, je me dis, boy, je sais pas s'il va rester quelque chose quand tu vas finir. Mais lui, il sait, il est en train de faire son poème, il est en train de faire son ouvrage. Et tous les jours, quand je me lève, maintenant que je sais ce que c'est qu'être chrétien, je m'en vais à la recherche des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi. Et restez avec nous pendant la série, parce que Éphésiens 4, 5, 6, ce sont les œuvres qu'il a préparées pour nous. Éphésiens 4, 5, 6, ce sont les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Maintenant, il est en train de nous aider à réaliser ce que Dieu nous a donné pour entrer dans cet ouvrage-là. Mais ta vie est un poème à la gloire de Dieu. Un ouvrage que Dieu a créé, t'as aucune raison de te péter les bretelles avec ça. Tu étais mort spirituellement, puis c'est la puissance de Christ qui l'a fait. Et qu'est-ce qu'il a réalisé en nous? Qu'est-ce que ça a eu pour effet? Ressusciter, créer, réconcilier. On va revenir sur ces idées-là parce que Paul est en train de mettre la table et on va y revenir de manière pratique au fur et à mesure qu'on va avancer dans la lettre aux Éphésiens. On a été rendus vivants, Éphésiens 2, 5 à 6. 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le livre d'Ézéchiel, il y avait cette vision de la vallée des ossements où Dieu donne une vision à Ézéchiel. Puis il est comme dans une vallée des morts où il y a des cadavres qui sont là, puis il y a des ossements qui sont là. Puis Dieu commence à interroger Ézéchiel, puis il dit, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ces corps-là peuvent vivre? Est-ce que ces os-là peuvent vivre? Puis Ézéchiel est troublé, c'est comme un test de foi que Dieu est en train de lui donner. Mais Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Et ces ossements reviennent à la vie. C'est une des plus belles images de cette nouvelle naissance que Dieu opère en nous. Où Dieu vient réaliser cela. Et donc, ce que Dieu nous dit, c'est qu'on est une nouvelle création. Un petit peu plus loin, il va dire qu'on est une nouvelle humanité. Il a créé un homme nouveau. C'est pour ça que je dis le christianisme, ce n'est pas un programme d'amélioration personnelle. C'est à la fois plus glorieux puis plus pathétique. Il faut premièrement que tu réalises qu'il y a aucun programme d'amélioration personnelle qui va permettre de faire quelque chose avec toi. T'es un mort spirituel. Et donc, il faut que Dieu te ramène à la vie. Mais s'il te ramène à la vie, c'est que tu es une nouvelle créature. Ce poème-là que Dieu est en train d'écrire, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle humanité qu'il est en train de créer. Et là, les possibilités sont infinies parce que c'est la vie de l'Esprit de Christ en nous qui est en train de créer toute cette nouvelle réalité-là avec des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On est son ouvrage pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. J'aime cette illustration. Imaginez que vous êtes mort. Ça va être cru un peu, OK? On est dans un cadavre un matin, je suis désolé. Imaginez que vous êtes mort et que votre corps est en décomposition, je l'ai dit. C'est bon? Ben, Paul nous dit que nous étions morts spirituellement. Imaginez que vous étiez attachés avec de solides chaînes, enfermés dans un cercueil. Paul nous dit qu'on était captifs du diable, du monde et de la chair. C'est ça qu'il dit. Imaginez que votre cercueil se préparait à passer par les flammes de l'incinérateur. Il nous dit qu'on est sous la colère de Dieu. Ça ressemble à ça. Quand tout à coup, alors même que votre cercueil avance tranquillement vers les flammes, quelqu'un saute au milieu des flammes, fracasse votre cercueil, il l'ouvre, puis malgré les brûlures qu'il est en train de s'infliger par les flammes, il retire votre corps de là. Il insuffle la vie dans votre corps. Il vous transporte en toute sécurité dans sa bagnole de luxe pour vous conduire dans le palace, le palais de son père, où il va prendre soin de vous pour l'éternité. C'est l'histoire d'un chrétien. C'est ça que Paul nous dit qui nous arrive. Et c'est Christ qui vient, qui fait cette œuvre-là en notre faveur. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Et Dieu vient créer une nouvelle humanité. Et je termine avec cette idée-là qui est super importante. Paul dit que Christ est notre paix. Ce qu'on va voir dans la suite, la semaine prochaine, ça va être développé davantage, mais je l'introduis parce que c'est là dans le texte. C'est important. Lorsqu'on a choisi comme titre pour la série « L'Église, expression de l'Évangile », c'est parce que un des effets les plus beaux de l'Évangile, c'est la réconciliation. Non seulement Dieu nous ramène à la vie, mais Dieu nous réconcilie avec lui et il nous réconcilie entre nous. Et donc, ce que Paul développe dans la suite du passage, Éphésiens 2, 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Verset 16, « Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant l'inimitié. » Verset 17, 18, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Le plus beau miracle visible, au-delà des miracles que les apôtres ont faits dans les jours, les années qui ont suivi le départ de Christ, le plus beau miracle visible pour les hommes, ça a été de voir des églises naître un peu partout dans l'Empire romain, composées de juifs qui ont cru dans Jésus le Messie et de païens, de non-juifs qui ont cru dans Jésus le Messie. Est-ce que la paix sur la terre, c'est possible? C'est possible dans l'Église de Christ. Voyez-vous, une Église qui serait représentée par une seule ethnie, une Église qui serait représentée par une seule génération, une Église qui serait représentée par une uniformité culturelle impeccable, c'est tellement triste à voir. Ça représente tellement pas l'Évangile de Jésus-Christ. Si tu viens du pays le plus éloigné de la terre, si par ta culture, par l'éducation que tu as reçue, tu es complètement différent de moi, mais que tu connais Jésus-Christ comme je connais Jésus-Christ, j'ai plus d'affinité réelle et profonde avec toi qu'avec mon frère Hugo, avec qui j'ai été élevé pendant toute mon enfance, parce qu'il n'était pas chrétien, lui est chrétien. Mais s'il y a l'Évangile entre toi et moi, entre un homme et une femme qui sont mariés ensemble, entre un frère et une sœur dans une maison, entre des frères et sœurs dans l'église, de cultures différentes, de coutumes différentes, d'éducations différentes, de couleurs différentes, de statuts sociaux différents, de conditions de vie différentes. Si l'Évangile est là au milieu de nous, la paix est entièrement possible. parce que Dieu nous a réconciliés avec lui et entre nous en Jésus-Christ. Et donc l'apôtre Paul dit, tous les deux, on approche le Père ensemble. Et l'Église doit être l'endroit où l'Évangile est proclamé chaque fois que deux frères et sœurs dans la foi sont en train de se distancer l'un de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on doit être centré sur l'Évangile, centré sur la personne de Christ? Pourquoi est-ce qu'on insiste sur ça? L'Évangile, ce n'est pas seulement pour celui qui est mort spirituellement. C'est pour le chrétien qui a l'impression que l'unité, la communion au sein de l'Église n'est pas possible. Ce chrétien-là, cette chrétienne-là, a besoin d'entendre encore une fois l'Évangile. C'est parce que l'Évangile n'a pas été prononcé, n'est pas présent au milieu de cette relation-là divisée que la division subsiste. Amen? C'est vrai ce que je vous dis, c'est sérieux. Combien de chrétiens disent « Moi, je crois en Jésus, je crois dans l'Évangile, mais l'Église, parle-moi pas de ça. Je suis désolé, tu ne crois pas dans l'Évangile. » Ah, tu y as cru, tu y crois dans une certaine mesure, mais la prière de Paul est entière pour toi. Dans ton couple, vous êtes deux chrétiens, il n'y a pas d'unité qui est là. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple. Hey, Paul passe son temps à régler des conflits, vous allez voir dans les lettres. Mais avec l'Évangile. Donc vous êtes deux chrétiens. L'Évangile est là au milieu de vous. Et ce qui manque au milieu de vous, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. On était tous morts spirituellement, prisonniers de notre rébellion contre Dieu. On était tous étrangers, mais Dieu, dans sa grâce, par Christ, est intervenu dans nos vies pour nous ramener à la vie. On va chanter des louanges ensemble, on va écouter des témoignages tout à l'heure, et voici tout ce qu'on va proclamer se résume à ceci. Éphésiens 2, 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des siens. » Gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Avant de connaître Christ, tu étais mort spirituellement. Tu étais étranger aux choses de Dieu. Ton mode de pensée, c'était le train de ce monde, la pensée du monde. Celui qui nourrissait tes pensées, c'était le diable. C'était la chair, t'écoutais ces pulsions-là. Mais Dieu, dans sa grâce, est intervenu. T'as rien fait qui te méritait le salut. T'as juste adhéré avec foi. T'as juste placé ta foi en Jésus-Christ. Et tu as été sauvé par grâce. Tu as été sauvé par grâce et aujourd'hui, si tu marches avec Dieu, c'est par sa grâce. Et lorsque tu vas voir apparaître le moment de la fin, si Dieu le permet, lorsque tu vas te préparer à fermer les yeux pour une dernière fois, ce à quoi tu vas t'accrocher, c'est à sa grâce. Avec cette confiance et cette foi, qu'au moment où tu vas rouvrir les paupières, tu vas voir sa face glorieuse et qu'il va t'accueillir en vertu de sa grâce. Et Dieu t'a ressuscité, a fait de toi une œuvre nouvelle, il a fait de toi un poème. Il est en train d'écrire ce poème-là à travers les bonnes œuvres qu'il a préparées. Toutes ces œuvres-là sont les fruits de sa grâce en toi. Elles sont là aujourd'hui, demain, tantôt. L'Esprit va te parler et va te dire, viens-t'en, fais ça. Fais-le par générosité, fais-le par désir de sainteté, fais-le pour marcher avec moi. C'est l'œuvre de sa grâce en toi encore à ce moment-là. Je ne sais pas si tu as saisi la grâce de Jésus-Christ. Tu entends des témoignages, je t'invite ce matin, c'est une décision, ça demande un coup dur, il faut que tu acceptes cet état de mort spirituelle. Peut-être que tu as besoin de faire le test que je t'ai proposé cette semaine. Essaie de marcher dans les voies de Dieu 7 jours. Pas les voies de Dieu comme tu les conçois, mais comme Dieu nous les donne. Essaye ça, 7 jours de temps, tu m'en donneras des nouvelles. Mais peut-être que l'Évangile doit être appliqué dans l'Église au milieu de nos relations. Et peut-être que tu as pris des distances par rapport à un frère, à une sœur en Christ. Et l'Évangile a besoin d'être proclamé entre vous deux, afin que vous veniez ensemble auprès du Père dans la prière. Ça, c'est le test que je place devant toi. Ce que vous devez chercher, c'est arriver à cet endroit où vous allez prier ensemble le Père, parce que l'Évangile va régner entre vous deux. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons élever ton nom ce matin, Seigneur. Merci pour les chants qu'on va chanter. Merci pour les témoignages qu'on va entendre. Merci pour les baptêmes. Merci, Seigneur Jésus, pour l'Évangile de la grâce. Merci pour ton œuvre à toi. Mais Dieu est intervenu dans ma vie. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous voulons te célébrer ce matin. Amen.